Vous écoutez France Culture.
La rumeur du monde. La rumeur du monde, Jean-Claude Casanova, Jean-Marie Colombani, les enlèvements au Niger et Al-Qaïda. Sept personnes, dont cinq Français, donc, ont été enlevées récemment au Niger, dans la ville d'Arlit, qui est une cité minière où sont concentrées les mines d'uranium d'Areva. Et on a aussitôt reparlé d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Al-Qaïda au Maghreb islamique qui a revendiqué cet enlèvement et qui va nous amener aujourd'hui à nous interroger sur la situation dans cette région, bien sûr, et sur ce que c'est que Al-Qaïda au Maghreb islamique, quels sont ses liens avec Al-Qaïda, et comment, d'une façon générale, se développe, continue de se développer, se renforce ou s'affaiblit Al-Qaïda. Pour essayer de brosser un panorama aussi complet que possible, nous avons donc demandé à Jean-Pierre Filieu d'être avec nous. Jean-Pierre Filieu, qui est professeur associé à Sciences Po, et qui est l'auteur d'un livre intitulé « Les neuf vies d'Al-Qaïda », qui était édité chez Fayard, et Pierre Chériot, qui est chef du service Afrique à Courrier International, donc pour balayer un petit peu toute cette région, autant en tout cas qu'il est possible, ce qui nous doit nous amener à nous rappeler que quatre de nos compatriotes avaient déjà été assassinés en Mauritanie en 2007. Qu'ensuite il y a eu divers enlèvements, prises d'otages, que le plus récent c'est hélas Michel Germano qui a été lui exécuté également, semble-t-il, par Al-Qaïda Maghreb islamique, en même temps qu'un touriste britannique qui avait été lui aussi fait prisonnier, alors que dans le même temps, des Espagnols ont été, eux, libérés après négociation et après paiement de rançon. Alors évidemment, on s'est demandé quelle était la part du gangstérisme pur et simple dans ces enlèvements, quelle était la part politique, puisque c'est revendiqué par Al-Qaïda Maghreb islamique, et comment se situe au fond la France dans cette région. Car on voit bien que dans cette zone du Sahel, dans cette bande de territoire qui est limitrophe de plusieurs pays, l'Algérie, la Mauritanie, le Niger, le Mali, on voit bien que c'est là que se concentre un certain nombre de forces qui se réclament d'Al-Qaïda et qui alimentent divers trafics de tous ordres. Alors quelle est la force réelle de cet Al-Qaïda au Maghreb islamique et comment peut se situer la France dans ce paysage, la France qui a des relations pour le moins compliquées avec l'Algérie? Or, toute solution militaire et politique, notamment, me semble-t-il, dépendra du bon vouloir algérien. La France qui a des relations compliquées avec le Niger, puisqu'il y a eu récemment un changement de présidence qui était un petit peu perturbateur. La France qui a des relations aussi pas évidentes avec le Mali. Donc voilà, on va essayer de passer d'abord tout cela en revue, mais peut-être d'abord avec vous, Jean-Pierre Filieu, nous dire ce que c'est que Al-Qaïda Maghreb islamique. Est-ce que ça représente un nouveau développement d'Al-Qaïda qui est en voie de renforcement ou au contraire, est-ce que c'est une sorte de force résiduelle de ce qu'a été à un moment Al-Qaïda? Est-ce qu'il y a des liens avec ce que vous appelez Al-Qaïda central, qui est toujours situé dans les montagnes du Pakistan, limitrophe de l'Afghanistan, où est réfugié Ben Laden? Voilà, donc essayons d'abord d'y voir clair sur ce sujet. Jean-Pierre Filieu.
Oui, donc Al-Qaïda au Maghreb islamique a changé de nom en janvier 2007. C'était auparavant le groupe salafiste pour la prédication et le combat, donc une formation djihadiste algérienne la plus violente de la guerre civile de la décennie noire des années 90 en Algérie, qui avait perduré, mais qui était en crise profonde. Et donc son émir de l'époque, et qui est toujours en place, donc son commandant, c'est la traduction littérale d'émir, Abdelmalek Droukdal, a prêté allégeance à Ben Laden et donc a été intégré, son groupe devenant Al-Qaïda au Maghreb islamique. C'est la première fois qu'Al-Qaïda centrale intègre un groupe tel quel, sans en changer la structure, la hiérarchie, ce qui fait que l'encadrement algérien d'Al-Qaïda au Maghreb islamique est toujours en place. En même temps, par cette intégration, Ben Laden et ses comparses, ses complices, ses assistants, assignaient en fait deux missions à ces djihadistes algériens. L'une, c'était l'intégration dans un Maghreb islamique des réseaux tunisiens, marocains, pour que le groupe ne reste pas purement algérien. Ça a échoué. Ils ont gardé justement cette spécificité algérienne car les frères djihadistes des pays limitrophes n'ont pas souhaité se placer sous leur férule. Et la deuxième mission, c'était de frapper en Europe, et plus spécialement la France et l'Espagne, dans le prolongement d'une propagande violemment anti-française qui préexistait à l'intégration dans Al-Qaïda. C'est une focalisation historique des djihadistes algériens à l'encontre de l'ancienne puissance coloniale, vu qu'ils considèrent que le régime en place à Alger n'est que le produit de la France. Ils le qualifient d'ailleurs de fils de France. Ils disent qu'ils veulent expurger l'Algérie des fils de la France. Or, ces deux missions ont échoué. ACMI n'a pas pu se régionaliser. ACMI n'a pas pu, entre autres du fait de l'excellente coopération policière interméditerranéenne, frappé en France. Donc ils se sont rabattus sur le Sahara, et ça a été, ce que vous rappeliez, l'assassinat de nos quatre compatriotes en décembre 2007 à l'est, dans l'est de la Mauritanie.
Et puis maintenant, les développements les plus récents. Pierre Chériot, un mot sur la configuration géographique de tout cela, puisque l'ACMI, dont on vient de parler, concentre ses forces, semble-t-il, au nord du Mali. Que fait le Mali? Comment se fait-il que cette situation de no man's land contrôlée de fait par des bandes armées se soit progressivement installée sans que le Niger, la Mauritanie, le Mali et même l'Algérie puissent enrayer ce phénomène?
Le Mali est dans une situation extrêmement compliquée puisque il y a eu une rébellion Touareg dans le nord du Mali que le régime malien a eu énormément de mal à contrôler. Et maintenant, le Mali a peur de... S'il frappe trop brutalement dans le nord, il peut tuer des civils et ça peut réactiver la rébellion Touareg. Donc ça, c'est quand même une des peurs du Mali. Un autre élément qui est quand même très important, et qui explique d'ailleurs qu'Al-Qaïda Maghreb ait pu s'installer aussi rapidement dans cette région, c'est que c'est quand même une région où les États sont extraordinairement faibles. Et on peut dire que souvent, ils ne contrôlent pas grand-chose, à part la capitale. Tout à l'heure, Jean-Marie Colombani, vous évoquiez le cas des premiers assassinats de Français en décembre 2007. Il faut savoir qu'après, quand les assassins des Français ont pris la fuite, ils sont allés se réfugier à Dakar. Donc, en pleine capitale du Sénégal, ils ont des bases arrières. Et les autorités sénégalaises et les Français étaient au courant, mais ils n'ont pas voulu intervenir parce qu'ils avaient peur que ça se traduise par des combats dans les quartiers populaires. Donc c'est vrai qu'il y a une grande facilité comme ça de circulation d'Al-Qaïda dans toute la région, à cause aussi de la grande faiblesse des États.
Oui, Jean-Pierre Filly.
Et à cause de leur collaboration avec des réseaux mafieux. Parce qu'en fait, de toutes les formations d'Al-Qaïda, Al-Qaïda au Maghreb islamique est de loin celle qui est la plus engagée dans des activités criminelles, qui garantissent à la fois ses routes de transit, ses réseaux d'information et puis ses ressources financières. Le chef d'Al-Qaïda pour la Mauritanie, Mortar Belmortar, est surnommé Mister Marlboro du fait de tous les trafics, entre autres de cigarettes, mais aussi de stupéfiants, d'armes, d'immigrants illégaux dans lesquels il est engagé. Ça fournit beaucoup de complicité et beaucoup de facilité, au-delà de la faiblesse des États que vous rappeliez.
Jean-Claude Casanova.
Oui, vous venez de faire allusion à des éléments mafieux, de financement, de réseaux, etc. Mais si l'on recherche les causes profondes, si vous voulez, est-ce que... on voit très bien la zone géographique, on voit très bien les difficultés d'intervention et les facilités d'action, difficultés d'intervention des forces de police et facilités d'action pour les terroristes, je mets des guillemets, mais les causes profondes, est-ce que ce sont des causes locales, c'est-à-dire que les régimes et la zone créent des individus ayant ce type d'activité, ou est-ce qu'il y a un arrière-fond qui est le radicalisme islamique qui se perpétue par quel mouvement intellectuel, religieux ? Est-ce qu'il y a une source doctrinale et idéologique de ces activités, ou est-ce que elles prennent prétexte ils ont au fond une volonté violente et mafieuse et ils prennent un prétexte idéologique?
Jean-Pierre Filiu, puis Pierre Chériot.
Oui,
Jean-Pierre
Filiu. Déjà, le niveau d'inculture religieuse dans les rangs d'Al-Qaïda,
les salafistes, par exemple,
est assez pathétique, mais il atteint avec Al-Qaïda au Maghreb islamique des niveaux tout à fait abyssaux. Ce sont des gens qui ont fort peu de références religieuses, quels qu'ils soient, et qui ne sont en aucun cas le prolongement de mouvements islamistes locaux, salafistes ou autres. Ils sont en fait une projection, et une projection opportuniste. C'est-à-dire que comme le Maghreb n'est pas un espace d'extension régionale, comme le nord de la Méditerranée n'est pas ouvert à la projection terroriste, on se rabat sur le sud et le Sahara, et c'est là où il y a un autre facteur opportuniste qui rentre en ligne de compte, qui est la concurrence entre les commandants militaires. Avec celui qui est le plus installé depuis le plus longtemps, qui est Belmortar, qui pensait effectivement avoir assuré ses arrières dans le nord du Mali, et puis son challenger qui émerge depuis peu, qui s'appelle Abu Zeid, qui malheureusement est devenu tristement fameux du fait de la mort de notre compatriote Michel Germano et de l'enlèvement du 15 septembre à Arlit, et qui est venu en fait perturber les arrières de Belmortar dans le nord du Mali à partir de l'été 2009, ce qui a engendré toute une série d'accrochages et aggravé très sensiblement la situation au Mali même.
Pierre Chériot, sur ces données.
Oui, alors ce qui est vrai quand même, c'est qu'on constate une radicalisation d'une partie de la population de ces pays, notamment la jeunesse. Ça m'avait frappé au moment où les trois Catalans ont été enlevés en Mauritanie. Je me trouvais à Nouakchott et je parlais avec un certain nombre de Mauritaniens qui souvent faisaient des séjours fréquents en Europe, étaient assez occidentalisés. Et un certain nombre condamnaient cette action, mais un certain nombre de Mauritaniens comprenaient aussi qu'on puisse enlever des Occidentaux, même des Occidentaux qui travaillent dans l'humanitaire, parce qu'ils avaient un peu l'impression qu'il y avait une guerre entre... Alors c'était au moment où il y avait la polémique d'ailleurs sur les minarets en Suisse. Ils avaient l'impression qu'il y avait de plus en plus un choc de civilisation entre l'Occident et le monde musulman. Et un certain nombre de gens disaient, au fond, vous les Occidentaux, vous bombardez l'Irak, vous tuez des Afghans. Donc si Al-Qaïda tue des humanitaires, d'une certaine façon, c'est un peu... c'est un peu la réciproque. Et tout à l'heure, j'évoquais Dakar aussi, le fait qu'il y ait des bases arrières d'Al-Qaïda. C'est vrai que les gens ne se revendiquent pas d'Al-Qaïda, mais en même temps... Si Al-Qaïda peut installer des bases arrières, c'est aussi parce qu'il peut y avoir une certaine sympathie d'une partie de la population. Et on voit très bien quand on se promène dans ces quartiers qu'il y a une radicalisation d'une partie de la jeunesse qui souvent n'a pas, c'est vrai, des fondements théoriques très importants. Ils n'ont pas une très grande connaissance de la religion musulmane. En revanche, il y a un ciment qui est la haine de l'Occident qui monte chez une partie de ces jeunes qui ont souvent été formés par des prédicateurs qui viennent du Soudan ou d'Arabie Saoudite.
Et le salafisme proprement dit a une racine historique encore présente ou...
Jean-Pierre Filiu.
Oui, le salafisme, comme souvent avec les mouvements conservateurs contemporains, c'est une invention moderne qui se pare des vêtements de la tradition. Oui. On invente une tradition. Oui. On invente le look du prophète. On s'habille comme le prophète, mais généralement, on porte des Nike, parce que quand même, on vit en 2010. Donc, ce qui est, il y a eu deux phénomènes qui sont très complexe, mais que je livre en une phrase. D'une part, aujourd'hui, dans l'Afrique subsaharienne, l'islam et la chrétienté jouent à égalité, ce qui est qui veut dire qu'il y a un processus de conversion d'une part et de croissance naturelle de la population musulmane d'autre part, tout à fait considérable, qui a complètement changé le paysage religieux du continent en une génération. Et que cela, ça se fait certes par des processus locaux, mais comme cela vient d'être rappelé aussi, par la venue de prédicateurs soudanais, pakistanais ou autres. Il y a toujours l'idée, ah, mais l'islam local, lui, il est gentil, il est bon, il est modéré, mais l'islam étranger, lui, il est méchant, il ira des bons. C'est toujours un peu plus compliqué que ça. Cela dit, une fois qu'on a posé ce décor, hein, qui peut être nuancé ici ou là, Al-Qaïda n'en émane pas. Al-Qaïda est projeté du nord, par une bande de gangsters en Toyota. C'est pas du tout l'émanation des quartiers en déshérence ou en rébellion potentielle. Donc il faut bien
oui,
distinguer.
Oui, mais c'est le terreau. Il grandit sur. S'il n'y avait pas ce terreau, est-ce que Al-Qaïda existerait néanmoins ?
Ben, le jour où Al-Qaïda recrutera en milieu urbain, là, on pourra sérieusement oui. s'inquiéter. Oui. Actuellement, tout ce qu'on voit dans le recrutement, on parle d'un groupe qui a quelques centaines de membres, dont la moitié est encerclée dans ses bastions djihadistes en Kabylie, avec 100, 150 militants dans une katiba, donc une brigade, 100, 150 dans l'autre, qui nomadisent dans le Sahara. Donc effectivement, ils ont récemment recruté 10, 20, 30, 40 Maliens, Burkinabés, quelques Sénégalais, sans doute quelques Nigérians. On n'est pas dans un mouvement de masse.
Avant de revenir sur Al-Qaïda et sa situation de force ou de faiblesse aujourd'hui, au sens large du terme, Pierre Chériot, quelles sont les marges de manœuvre de la France dans cette région et sur ce problème d'aujourd'hui ? Dans une région où, me semble-t-il, la puissance dominante, c'est quand même l'Algérie qui pousse sa frontière jusque-là, et où les États-Unis sont présents également à travers des accords militaires plus ou moins clandestins avec l'Algérie, et dans une situation où les différentes capitales sont... on a des relations qui ne sont pas nécessairement harmonieuses avec les différentes capitales concernées, que ce soit Nouakchott ou d'autres, Pierre Chériot.
La situation de la France est très compliquée, puisque dans cette partie du monde, quand la France intervient, elle est accusée de néocolonialisme et d'ingérence, et quand elle n'intervient pas, elle est accusée d'indifférence. Donc quoi que fasse...
Ou en tout cas accusée de perdre de l'influence.
Voilà, de perdre de l'influence aussi. Donc quoi que fasse la France, de toute façon, ça lui sera reproché. C'est vrai qu'en plus, la France est dans une situation d'autant plus compliquée que les autorités françaises avaient... vertement critiquer les Espagnols quand ils ont, selon toute probabilité, en tout cas selon la presse espagnole, selon El Mundo et d'autres publications espagnoles, les Espagnols auraient versé 6 ou 7 millions d'euros pour obtenir la libération des Catalans, des otages catalans. Et juste après, la France avait critiqué évidemment cette politique de négociation. Donc c'est vrai que maintenant, négocier, en même temps la France dit qu'elle veut négocier, mais c'est vrai que si c'est pas donner de l'argent, c'est obtenir la libération peut-être d'islamistes, ce qui avait été fait dans un cas précédent par le Mali, ce qui avait provoqué la colère de la Mauritanie et de l'Algérie. Donc de toute façon, c'est vrai qu'on ne voit pas comment la France peut sortir.
Mais Jean-Pierre Filiu établissait bien tout à l'heure que Al-Qaïda Maghreb islamique, c'est au fond une émanation de la guerre civile algérienne. Et donc il y a une double raison pour l'Algérie de se mettre en avant et d'éviter peut-être que la France n'interfère trop, à moins que les choses ne soient coordonnées. Mais on voit mal les choses se coordonner parfaitement avec les Algériens aujourd'hui, Pierre Chériot.
C'est-à-dire que l'Algérie a quand même des relations extrêmement compliquées avec la Mauritanie et le Mali, hein, parce qu'il y a des différents frontaliers. Donc on voit mal la Mauritanie et le Mali laisser l'Algérie intervenir dans ces pays-là. L'Algérie elle-même ne veut pas qu'on intervienne sur son territoire. C'est aussi ce qui fait la force d'ailleurs d'ACMI. Alors par rapport à ACMI, c'est vrai qu'à l'origine c'est algérien, mais je tiens quand même à noter que quand les quatre Français ont été assassinés en décembre 2007, ce sont des Mauritaniens qui les ont assassinés. Quand il y a eu une tentative d'attentat par un kamikaze devant l'ambassade de France, c'était aussi un Mauritanien qui était l'auteur de l'attentat. Tout à fait. Oui. Donc il y a quand même un recrutement parmi la population mauritanienne, il y a une tradition de très ancienne de théologiens mauritaniens assez radicaux. Donc il y a aussi, alors évidemment on n'a pas de données très précises sur ACMI, mais il y a un certain nombre d'experts qui pensent que près de 200 Mauritaniens pourraient être rentrés dans les rangs d'ACMI, ce qui fera à peu près la moitié des effectifs. Donc c'est quand même devenu aussi un problème, pas seulement algérien, mais un problème mauritanien notamment.
Et les instruments logistiques sont fournis par les États-Unis ou non? Parce qu'on parlait d'une base plus ou moins secrète des États-Unis dans le sud algérien. Est-ce que c'est un fantasme ou est-ce qu'il y a une réalité de présence des services du renseignement américains sur place?
Disons que selon un certain nombre d'Algériens, notamment d'experts algériens qui se sont exprimés dans la presse, il y aurait en effet une présence américaine, à la fois en Algérie, mais aussi au Mali. Les Américains sont très présents au Mali depuis assez longtemps. C'est surprenant d'ailleurs, parce que on peut se balader dans des villages du Mali, dans des petites villes, et on trouvera toujours un Américain qui traîne par là. Alors là, de moins en moins, c'est une des conséquences d'ailleurs de l'action d'ACMI, c'est qu'au fond, ça fait que les Occidentaux ont de plus en plus de difficultés à sortir des capitales et à savoir ce qui se passe dans les pays, que ce soit au Niger. Au Niger, les ONG ont déserté le Nord, donc c'est vrai que les coopérants, les expatriés...
Mais petit à petit, le territoire est abandonné,
tout
au fond...
Tout à fait.
Et donc passe sous contrôle de fait de l'ACMI ou de bandes qui sont reliées à l'ACMI.
La stratégie de la peur a fonctionné, fonctionne en tout cas.
Jean-Claude Casanova.
Est-ce qu'il y a une possibilité, on voit bien le dilemme qui doit se poser, c'est-à-dire ou bien une intervention militaire coordonnée avec des sources d'observation précises, ou bien une forme de négociation. Il n'y a pas tellement de... L'intervention militaire, est-ce qu'elle a des chances de réussir? Et la négociation également.
Jean-Pierre Filiu.
Je dirais qu'il y a quand même une troisième branche de l'alternative qui est une intervention régionale.
Par les locaux, oui.
Et on voit bien qu'Al-Qaïda au Maghreb islamique, en permanence, explique, c'est d'ailleurs le fait de toutes les branches d'Al-Qaïda, qu'elle n'est pas en guerre contre l'armée pakistanaise, l'armée irakienne, l'armée yéménite, l'armée mauritanienne, mais contre les États-Unis et, dans le cas du Sahara, la France. Et que l'armée mauritanienne, quand c'est elle qui combat, n'est jamais que l'agent, c'est le terme employé par les djihadistes, de la puissance coloniale. Or, on voit bien le jeu régional qui est sans doute la clé, au-delà du drame actuel, d'une forme de neutralisation de la menace djihadiste dans la zone. Il ne peut y avoir que coordination transfrontalière. Elle était pratiquement absente il y a quelques années. Aujourd'hui, on se rend compte qu'elle fonctionne.
C'est-à-dire Algérie, Mauritanie, Mali ?
Algérie, Mauritanie, Mali, dans un premier temps, et Niger, dans un second temps. Il y a d'ores et déjà un état-major régional à Tamam Rasset, donc dans le sud algérien, qui coordonne ce type d'opération.
Avec une capacité d'observation autonome ou une aide occidentale?
Ça, moi, je n'ai aucun élément opérationnel que je pourrais partager, je ne les ai pas. Mais ce que je constate, c'est qu'on en est à la troisième opération mauritanienne lourde en territoire malien, sans aucune protestation de la part du Mali. Et je ne vois pas les Mauritaniens, en tout cas dans la configuration actuelle, opérer ce type d'opération sans au moins un soutien technique et renseignement de la part de l'Algérie.
Pierre Chériot, vous approuvez cette analyse?
Oui, tout à fait. Mais ça va même, à mon avis, un peu plus loin dans la coopération régionale, parce qu'on n'a pas parlé pour l'instant d'un pays comme le Burkina Faso. D'ailleurs, c'est sans doute pas un hasard si la France a posté ses troupes au Burkina Faso, parce que le Burkina Faso est devenu un acteur clé dans la région. Souvent, le président Compaoré est présenté comme une sorte un peu de parrain régional, et donc c'est vrai qu'un de faiseur de paix, notamment, et c'est vrai que beaucoup de... Les Touaregs sont aussi présents au Burkina Faso. On a dit aussi qu'Al-Qaïda avait fait des incursions au Burkina Faso. Donc les négociateurs burkinabés sont un peu sur les rangs et c'est vrai que des solutions peuvent émerger de ce côté-là.
Oui, Jean-Pierre Filiu.
Oui, avec une distinction qu'il faut, je crois, garder à l'esprit entre les deux grands groupes de commandos d'Al-Qaïda dans le Sahel. Donc il y a Belmortar, qui est focalisé sur la Mauritanie avec des bases arrière avant au Mali et maintenant dans le Tanezrouf algérien. Et puis il y a Abou Zeid, celui qui en ce moment
qui nous concerne plus directement,
fait le plus le devant de l'actualité, qui a une très grande mobilité depuis l'est de la Mauritanie jusqu'au Tchad et du sud de la Tunisie jusqu'au nord du Mali. Le Burkina est intervenu dans le cas de Belmortar, parce qu'un des conseillers du président burkinabé est un Mauritanien un peu en délicatesse avec le régime et qui a gardé quelques accointances du côté des barbus, pour parler simplement. Donc c'est lui qui est fait. Mais le Burkina n'a, à ma connaissance, aucun moyen d'intervention du côté d'Abou Zeid, qui est maintenant la crise ouverte nous concerne aujourd'hui.
Jean-Pierre Philippe, pour élargir un petit peu le propos et revenir à Al-Qaïda à la fois centrale et à ses diverses ramifications, vous rappelez dans votre livre et dans vos différents articles que le tournant pour Al-Qaïda a été au fond le refus d'intervention des troupes américaines au sol au moment où Ben Laden avait été localisé dans les montagnes très peu de temps après les interventions en Afghanistan. Et vous situer l'erreur stratégique dont vous attribuez à juste titre la paternité à George Bush lorsque les Américains se sont plutôt tournés vers la guerre contre l'Irak plutôt que de continuer leurs opérations ou d'entreprendre des opérations au sol pour la capture de Ben Laden. Et donc vous expliquez qu'à partir de ce moment-là, Al-Qaïda et Ben Laden, qui étaient en très grande difficulté après les premières interventions en Afghanistan qui avaient permis d'écarter les talibans du pouvoir en Afghanistan et de donner la chasse au fond à Ben Laden, vous expliquez que c'est l'intervention en Irak au fond qui a revivifié en quelque sorte Al-Qaïda. Par rapport à quelques années plus tard, la situation de quasi-enlisement en Afghanistan, les difficultés du Pakistan, quelle est comment jugez-vous de la force actuelle d'Al-Qaïda en partant de ce que vous appelez Al-Qaïda central, c'est-à-dire Ben Laden et ceux qui répercutent ces consignes?
Tout à fait. Jean-Pierre Filu. Donc Al-Qaïda central, en fait, c'est aussi par l'Irak qu'elle a pris langue avec les djihadistes algériens. C'est parce qu'il y a eu toute une série de réseaux qui se sont mis en place entre l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient pour amener des volontaires combattre les États-Unis en Irak, qu'Al-Qaïda nouer cette collaboration opérationnelle qui a abouti à la transformation des djihadistes algériens en Al-Qaïda pour le Maghreb islamique. Donc l'Irak a vraiment beaucoup joué, non seulement pour redonner un second souffle à Al-Qaïda, mais aussi pour lui permettre d'étendre ses réseaux jusqu'au sud de l'Europe. Alors aujourd'hui, cela paraît peut-être paradoxal vu de Paris, mais la priorité absolue d'Al-Qaïda, c'est pas du tout le Sahara, c'est le Pakistan. Ils ont les yeux rivés vers les métropoles de l'Est. Et au fond, ce qu'ils veulent, c'est que les autres branches d'Al-Qaïda occupent le terrain médiatique le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'ils effectuent une percée et qu'ils arrivent à soulager la pression qui est exercée sur eux dans les zones tribales pakistanaises. Donc ils encouragent les Irakiens à faire les carnages les plus sanglants possibles, les Yéménites à attaquer l'armée chaque fois qu'ils peuvent, et sans doute les Algériens dans le Sahara à faire les opérations les plus spectaculaires possibles pour tenir jusqu'au moment où ils pourront effectivement être plus à l'aise dans leur environnement pakistanais.
Oui, parce que vous rappelez que les heures les plus fortes d'Al-Qaïda sont les heures où ils contrôlent un territoire, qui est en effet le territoire afghan à travers les talibans, et qu'ils essaient à toute force de se recréer un territoire, notamment dans une zone pakistanaise où ils ont, en même temps, on passe peut-être ça trop sous silence, mais il y a des attentats en permanence dans les grandes villes pakistanaises qui sont effroyables, qui font des morts par centaines. Et en même temps, il y a des combats qui sont livrés contre Al-Qaïda, mais en sachant que le Pakistan est dans une situation qui n'est pas non plus limpide.
Et puis, il y a des camps d'entraînement.
Jean-Pierre Filu, oui.
C'est-à-dire ce qu'on n'a heureusement pas au Maghreb ou au Sahara, existe dans ces zones tribales du Pakistan des camps d'entraînement. Et il y a encore eu récemment, entre la Norvège et l'Allemagne, un réseau qui a été démantelé de terroristes qui avaient été, c'était pas Al-Qaïda, mais c'était une organisation partenaire, qui venait en France avec une planification d'attentats. Hein. Et il y a eu d'autres cas précédents. Tous les cas de conspiration terroriste déjouée ces dernières années aux États-Unis comme en Europe implique un passage par ces camps d'entraînement au Pakistan, qui reste donc vraiment le pôle d'où émane la principale menace terroriste sur les territoires des pays occidentaux.
Mais oui, Jean-Claude Casanova.
On voit bien l'interrogation qui apparaît quand on lit, quand on connaît simplement ces questions par la presse, c'est quel est le degré, la volonté du Pakistan ou la capacité du Pakistan à récupérer ces zones ou à les laisser telles qu'elles sont. Est-ce que le Pakistan joue vraiment le jeu ou n'arrive pas à contrôler une partie de son territoire ?
Jean-Pierre Filieu.
Il y a un an, on pensait que la dynamique était lancée. Hein. À peu près à la même époque, il y avait une offensive tout à fait inédite de l'armée pakistanaise contre le sud Waziristan, donc une de ces zones tribales. Le problème, c'est que c'est le nord Waziristan, sans rentrer dans les détails géographiques, qui est vraiment le cœur du dispositif djihadiste. Et ils se sont arrêtés aux portes. Donc on a eu l'impression, une forme de demi-mesure, on a donné le change par rapport aux États-Unis, on n'a pas voulu aller jusqu'au bout. Et puis, pour parler très crûment, indépendamment des considérations stratégiques sur les Pakistanais qui ont peur de l'Inde et qui veulent garder toutes leurs options, il y a l'idée, quand on aura donné Ben Laden aux États-Unis, interrompons-nous encore grand monde à Washington ?
Oui, ça c'est aussi. Vous évoquez dans vos articles et dans votre livre également, Jean-Pierre Filieu, votre livre c'est « Neuf vies d'Al-Qaïda », la façon dont Al-Qaïda est présente en permanence à travers une politique de propagande remarquablement bien faite, à base de communiqués réguliers, de mise en scène régulière, beaucoup en jouant sur les réseaux internet, etc. Et Pierre Chériot, cette présence est sensible aussi en Afrique, Jean-Pierre Filieu d'abord, sur cette politique.
Oui, c'est vraiment aujourd'hui le front sur lequel Al-Qaïda est le plus actif, c'est Internet, hein, c'est le djihad virtuel. Et je crois que là-dessus, on est, c'est pas trop mon style d'avoir ce type d'expression, mais on est un peu naïf. Hein. On croit l'Internet, c'est sympa, c'est cool, c'est libéral. Or, ce sont des appels au meurtre. C'est justement face à des gens, Al-Qaïda, Maghreb islamique ou d'autres, qui ont une culture religieuse très faible, voire nulle, on leur offre un prêt-à-penser, on leur offre les 2-3 citations clés, tronquées, sorties de leur contexte, qui leur permettront de trouver une justification à leur violence terroriste. Et ça, c'est très grave. Et il y a sans doute trop de latitude qui est laissée dans le cyberespace à ces appels au meurtre. Al-Qaïda au Maghreb islamique n'aurait pas Internet, hein. Par exemple, hein, Abu Zeid, Drogdal et tous ses chefs seraient des chefaillons pratiquement inconnus dans un coin du Sahara. Là, l'un donne une interview au New York Times, l'autre est cité sur Al Jazeera, etc., etc. Ça leur donne un prestige immense. Et donc, un potentiel certes limité, mais qu'il faut prendre en compte de recrutement du fait d'Internet.
Mais ça prouve qu'il y a des réseaux avec un certain degré de qualification. Pour la manipulation d'Internet, ça ne peut pas se faire uniquement avec des terroristes en Jeep dans le Sahel.
Oui, Jean-Pierre Filieu.
Oui, mais là, ça aussi, je m'efforce de le raconter. Al-Qaïda, dès le début, a investi sur le terrain de la propagande. Ses maîtres à penser considèrent que le djihad médiatique, c'est la moitié du djihad. Donc, ils affectent des ressources importantes. Certes, il faut être technologiquement fluide, mais on n'a pas besoin non plus d'être extrêmement sophistiqué. Ce qu'il faut, c'est occuper le terrain médiatique. Et ce terrain-là, je parle de l'Internet, il l'aurait trop souvent laissé sans réaction. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des contre-mesures qui sont faites. Par exemple, lors du dernier 11 septembre, Al-Qaïda prépare toujours une batterie de communiqués, de vidéos, etc. Et ça a été complètement neutralisé, sans doute par la neutralisation des sites porteurs. Et ça n'est sorti que le 15 septembre dans l'indifférence générale. Donc il y a des possibilités d'interagir.
Pierre Chériot, dans la zone que vous observez?
Oui, c'est vrai que ça passe beaucoup par Internet. D'ailleurs, on voit dans les quartiers populaires, il y a énormément de cyber qui sont installés. Il y a beaucoup de jeunes qui vont voir un peu cette propagande. Et puis souvent, il y a des messages qui disent, voilà, si vous êtes un bon croyant, faites suivre ce message aux autres bons croyants. Donc il y a vraiment cette politique est très développée. Après, je pense pas qu'il faille, entre guillemets, qu'il faille diaboliser Internet, parce que cette propagande ne passe pas que par Internet. Dans un pays qui peut passer pour aussi tolérant que le Sénégal, par exemple, moi j'ai souvent été dans la ville sainte des Mourides qui s'appelle Touba, donc souvent on dit les Mourides sont formidablement tolérants. Il y a un certain nombre de Mourides qui vous expliquent que par exemple le football est interdit à Touba parce que ce sport a été inventé par les Juifs qui jouaient avec la tête des prophètes. Et ça peut être des dignitaires religieux qui vous expliquent ça. Donc il y a aussi un certain nombre de gens qui ont profité d'une certaine inculture d'une partie de la population pour faire passer de la haine de l'Occident en général et des Juifs en particulier à travers. Ça peut passer à l'oral, ça peut passer par beaucoup de vecteurs, ça peut passer par des livres, enfin tout ne passe pas par l'Internet. Alors c'est vrai que l'influence de cette propagande est décuplée par l'Internet, mais elle est présente un peu partout. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'ils consacrent énormément de moyens à cette propagande. On n'a pas évoqué le nord du Nigeria, mais à mon avis, l'un des endroits qui n'est pas très loin, l'un des endroits où il y a aussi, c'est pas directement lié à Al-Qaïda, mais il y a aussi une volonté de commettre des attentats et d'être vraiment anti-occidentaux très très fort, c'est le nord du Nigeria. Et là il y a un certain nombre de prédicateurs qui font un travail énorme depuis 20 ou 30 ans dans ces régions. Alors c'est pas tout à fait un hasard si il y a un jeune du nord du Nigeria qui appartenait d'ailleurs à une famille très très aisée, qui avait étudié dans une école américaine, qui a essayé de faire sauter un avion partant aux États-Unis. Il venait du nord du Nigeria. C'était la première fois qu'on avait comme ça ce type d'attentat kamikaze venant de l'Afrique noire proprement dite. Donc il y a un travail énorme qui est fait de leur côté.
Un mot encore pour terminer. On voit bien dans votre livre, Jean-Pierre Filiu, qu'on est dans une situation très paradoxale, parce que Al-Qaïda, vous le rappelez, le mot d'ordre d'Al-Qaïda, c'est tuer les croisés et les juifs. Mais en même temps, son véritable objectif est un objectif politique totalitaire en direction des régimes qui sont des régimes arabo-musulmans et sur lesquels il cherche à prendre le dessus, le contrôle, etc. Dans une espèce de conception d'une grande communauté. Et donc ce sont ces régimes-là qui sont la cible d'Al-Qaïda, l'Arabie Saoudite, d'autres régimes, tentatives d'implantation en Irak et ainsi de suite. Et de ce point de vue-là, on voit bien que Al-Qaïda, en fait, est en recul. Et qu'aucun de ses objectifs n'a été atteint. Et que donc Al-Qaïda est replié sur un Al-Qaïda central, comme vous le dites, qui est assiégé dans les montagnes du Pakistan, et puis des ramifications qui sont des ramifications très perturbantes et en effet dominantes terroristes, mais qui ne sont pas la marque en même temps d'un progrès. C'est ça qui est paradoxal. Et en même temps, c'est les menaces qu'ils font peser, comme Al-Qaïda au Maghreb islamique, sont pourtant réelles. Donc c'est ça qui est difficile au fond à appréhender, à saisir aujourd'hui, mais qui renvoie à un problème sur lequel je voudrais terminer cette discussion, qui est, au fond, tout va beaucoup reposer sur la solidité ou la fragilité des pays. On a cité l'Algérie, évidemment. L'Algérie qui a finalement repoussé les assauts d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, au point de les repousser dans le désert. Mais le Niger, mais le Mali, mais la Mauritanie. Donc, du coup, on va avoir beaucoup d'enjeux comme ça, régionaux ou micro-régionaux, dont l'issue dépendra de la solidité ou de la faiblesse des régimes par rapport à ce que peut être, ce que peuvent être des zones de développement dans des pays loin des bases centrales d'Al-Qaïda, qui ne poursuivaient pas ses objectifs au départ, Jean-Pierre Filiu.
Oui, effectivement, et c'est là où il faut toujours localiser les problématiques ou les régionaliser et ne pas tomber dans le piège de la vision trop panoramique qui est justement ce qu'Al-Qaïda veut promouvoir, comme si toutes ces crises étaient liées. Elles le sont sûrement dans sa planification, mais elles ne le sont tout simplement pas sur le terrain. Et plus on a cette vision vraiment de la réalité concrète et du contexte en question, plus on a de la chance, effectivement, d'arriver plutôt vers une solution.
Et vous ne craignez pas, une extension de l'attitude pakistanaise, qui est au fond cette attitude ambiguë et parfaitement compréhensible, parce que ça consiste d'une certaine façon à donner satisfaction à l'Occident en poursuivant les terroristes, mais d'une autre façon à ne pas les détruire totalement, parce qu'il y a un certain gain à la pression anti-occidentale de cette façon. Donc le modèle pakistanais risque de se répandre à l'ensemble des pays islamiques.
Alors moi, je crois que le modèle pakistanais est tout à fait unique, pour plein de raisons liées à la constitution du Pakistan lui-même comme république
islamique,
et du fait que c'est au Pakistan...
Mais l'Arabie saoudite n'est pas ambiguë elle-même ?
Ah ben non, l'Arabie a quasiment éradiqué Al-Qaïda, et avec une brutalité et une efficacité.
Oui, mais est-ce qu'elle éradique le radicalisme religieux?
Ah non, ça, c'est autre chose.
C'est ça l'ambiguïté.
Oui, mais il y a eu là-dessus, enfin là, une vaste question. Il y a eu aussi tout un effort tout à fait important qui a été fait pour clarifier les conceptions religieuses, entre autres sur le djihad. C'est-à-dire maintenant, on est, pour parler simple, le djihad dans un seul pays. Les Irakiens en Irak, les Afghans. Et on a tordu le cou à l'idée qu'on peut envoyer de par le monde des internationalistes.
C'est fini, ça. Donc il n'y a plus.
Ah, c'est plus que fini, c'est même réprimé avec beaucoup de.
Et alors, les théologiens radicaux du Niger ou du Soudan?
Bien, eux, ils fonctionnent sur leur air. Ils sont toujours sur leur. Ils suivent leur dynamique, mais il y a des temps contradictoires.
Juste un mot pour terminer, Pierre Chériot, sur la faiblesse relative des régimes africains.
Non, mais pour répondre à votre question, en effet, je pense qu'il peut y avoir une sorte de syndrome pakistanais, en ce sens qu'un certain nombre justement d'États de la zone sahélienne qui sont très faibles peuvent avoir tendance à ne pas régler le problème, intérêt à ne pas régler le problème tout de suite et très rapidement, parce qu'il y a un certain nombre de financements qui vont leur être alloués de la part de la France, mais aussi de la part des États-Unis, puisqu'on voit que les États-Unis commencent à équiper militairement les armées de la région. Régler le problème trop rapidement n'est pas forcément une bonne idée pour eux.
Voilà, on va rester sur cette conclusion, j'allais dire, pessimisto-optimiste ou l'inverse de Pierre Chériot et de Jean-Pierre Filieu. Voilà quelques éléments d'approche donc, que nous pouvions vous livrer de ces questions extrêmement complexes, en renvoyant à la lecture du livre de Jean-Pierre Filieu, professeur associé à Sciences Po, donc Les 9 vies d'Al-Qaïda, qui est édité chez Fayard. Merci à vous, donc Jean-Pierre Filieu, d'avoir été avec nous. Merci à Pierre Chériot, donc, qui est le responsable Afrique de l'hebdomadaire Courrier International. Merci à vous toutes et à vous tous. Et j'indique aux auditrices et auditeurs de France Culture, qui sont nombreux, que Jean-Christophe Ruffin, ancien ambassadeur de France à Dakar, et qui connaît très bien ces questions, sera lui l'invité des Retours du Dimanche à 18h10, donc demain sur France Culture. Pour ce qui nous concerne, Jean-Claude Casanova et moi-même vous remercions de votre fidélité et de votre attention. Cette rumeur du monde était, comme de coutume, réalisée par Brigitte Bouvier, préparée par Dounia Djouri, et à la console technique, nous avions aujourd'hui Jean-Guilain Mège. Merci à vous toutes et à vous tous. Rendez-vous samedi prochain pour une autre rumeur du monde.